Chapitre 17. Harry Seldon regardait les gouttes de pluie s'écraser sur les vitres enveloppantes du véhicule terrestre impérial et il se sentit poignardé par une intolérable nostalgie. Ce n'était que la seconde fois en 8 ans qu'il avait reçu l'ordre de se rendre auprès de l'empereur, dans l'unique enclave de la planète restée à l'air libre, et cette fois encore le temps était mauvais. La première, peu après son arrivée à Trentor, ses intempéries l'avaient tout au plus irrité. Pour lui, c'était de l'inédit. Son monde natal d'Helicon avait son comptant de tempêtes après tout, en particulier dans la zone où il avait grandi. Mais cela faisait 8 ans maintenant qu'il vivait dans ce climat de rêve où les tempêtes se réduisaient à des passages nuageux déclenchés par ordinateur à intervalles aléatoires, avec des pluies faibles régulières durant les heures nocturnes. Les vents en rafales étaient remplacés par des zéphyrs, et il n'y avait ni chaleur ni froid extrême, tout juste d'infimes changements qui vous obligeaient parfois à descendre la fermeture à glissière de votre chemise ou au contraire à passer un blouson léger. Il avait même entendu des gens se plaindre d'aussi faibles variations. Mais à présent, Harry voyait de la pluie véritable dégringoler, lugubre, d'un ciel glacial, et il se rendit compte qu'il adorait ça. Cela lui rappelait Helicon, sa jeunesse, ses jours de relative insouciance. Et il se demanda s'il pourrait convaincre le chauffeur d'éviter de prendre au plus court pour rejoindre le palais. Impossible. L'empereur voulait le voir, et le trajet était déjà bien assez long par voie de terre, même en ligne droite et sans embouteillage. L'empereur, bien sûr, n'attendait pas. C'était un Cléon différent de celui que Seldon avait rencontré 8 ans plus tôt. Il avait pris 4 ou 5 kilos, et son visage avait quelque chose de boudeur. Pourtant, la peau autour des yeux et sur les pommettes semblait tirée, et Harry reconnut aussitôt les résultats d'un excès de micro-ajustement. En un sens, il plaignait Cléon. Malgré tout son pouvoir et sa pompe impériale, l'empereur restait impuissant face au passage du temps. Cette fois encore, Cléon rencontra Harry Seldon seul à seul, dans le même salon luxueusement décoré de leur première entrevue. Comme l'exigeait l'étiquette, Seldon attendit qu'il lui adresse la parole. Après avoir brièvement jaugé du regard son interlocuteur, l'empereur dit simplement « Heureux de vous voir, professeur. Dispensons-nous des formalités comme nous l'avons fait la dernière fois que je vous ai vu. » Bien, sire, répondit Seldon un peu raide. Il n'était pas toujours prudent de se passer de cérémonie, même si c'était l'empereur qui vous en priait dans un moment d'effusion. Cléon fit un mouvement imperceptible et aussitôt, la pièce s'anima, tandis que la table se dressait automatiquement et qu'assiettes et couverts commençaient d'apparaître. Confus, Seldon avait du mal à suivre tous les détails. L'empereur demanda négligemment « Vous dînerez bien avec moi, Seldon ?» La formulation avait la politesse d'une question, mais le ton avait la force d'un ordre. « J'en serai honoré, sire. » Seldon regarda alentour, méfiant. Il savait fort bien qu'on ne posait pas, qu'on ne devait pas poser, de questions à l'empereur. Mais il ne voyait pas comment l'éviter. Sur un ton relativement dégagé, en essayant de n'avoir pas l'air inquisiteur, il observa « Le Premier ministre ne dînera pas avec nous ?»«
Non, il est pris par d'autres tâches et je souhaite de toute façon vous parler en privé. »
Ils commencèrent à manger sans un mot. Cléon l'observait attentivement et Seldon souriait, crispé. Cléon n'avait pas la réputation d'être cruel, ni même irresponsable, mais il disposait, en théorie, du pouvoir de faire arrêter Seldon sous un prétexte quelconque, et si l'empereur voulait exercer son influence, l'affaire pouvait même ne jamais venir devant les tribunaux. Il valait toujours mieux éviter de se faire remarquer. Certes, la situation avait été pire 8 ans auparavant, quand on l'avait conduit au palais sous bonne garde. Ce n'est pas pour autant qu'il se sentait aujourd'hui soulagé. Enfin, Cléon parla.
« Seldon, dit-il, le Premier ministre m'est d'une grande utilité. Pourtant, je sens que par moments le peuple pense que je n'ai pas d'avis personnel. Est-ce parfois votre avis ?»«
Jamais, sire, répondit calmement Seldon. Pas d'excès de protestation.
Je ne vous crois pas. Malgré tout, j'ai bien un avis personnel, et je n'ai pas oublié qu'à votre arrivée à Trentor, vous aviez cette psychohistoire avec laquelle vous vous amusiez.
Je suis donc sûr, répondit doucement Seldon, que vous n'aurez pas non plus oublié, sire, ce que j'avais expliqué à l'époque, à savoir qu'il s'agissait d'une simple théorie mathématique sans aucune application pratique.
C'est ce que vous disiez. Le dites-vous toujours ?
Oui, sire.
Y avez-vous travaillé depuis ?
À l'occasion. Je m'amuse avec, comme vous dites, mais sans déboucher sur rien. Le chaos interfère malheureusement, et les qualités de prévision ne sont pas... L'empereur l'interrompit.
J'ai un problème précis auquel je désire que vous vous atteliez.
Mais prenez du dessert, Seldon, il est excellent.
Quel est le problème, sire?
Cet homme, ce Joranum. Demerzel me dit, oh, fort poliment, que je ne peux ni arrêter cet individu, ni recourir à la force armée pour écraser ses partisans. À l'en croire, cela ne pourrait qu'aggraver la situation.
Si le Premier ministre le dit, je présume que c'est vrai.
Mais je ne veux pas que ce Joranum... En tout cas, je ne serai jamais sa marionnette. Or, Demerzel ne fait rien.
Je suis sûr qu'il fait ce qu'il peut, sire.
S'il travaille à résoudre le problème, il ne m'en tient pas informé.
C'est bien possible, sire, par un désir tout naturel de vous préserver. Le Premier ministre estime peut-être que si Joranum devait...
S'il devait prendre le pouvoir,
compléta Cléon sur un ton d'infini dégoût.
Oui, sire.
Il serait alors malvenu de laisser apparaître que vous lui êtes personnellement opposé. Vous devez demeurer en dehors de tout cela, dans l'intérêt de la stabilité de l'Empire.
J'aimerais mieux assurer la stabilité de l'Empire sans Joranum. Que suggérez-vous, Seldon?
Moi, sire?
Oui, vous, Seldon,
dit Cléon impatient.
Disons que je ne vous crois pas quand vous me dites que cette psychohistoire n'est qu'un jeu.
Demerzel reste en bon terme avec vous?
Me croyez-vous idiot au point de ne pas l'avoir remarqué?
Il compte tirer quelque chose de vous, il s'agit de la psychohistoire. Et puisque je ne suis pas un idiot, je compte bien en profiter moi aussi.
Seldon, êtes-vous pour Joranum? La vérité?
Non, sire. Je ne suis pas pour lui. Je le considère comme un danger absolu pour l'Empire.
Fort bien. Je vous crois. Vous avez arrêté un début d'émeute Joranumite sur le domaine universitaire à vous seul, m'a-t-on dit.
C'était pur réflexe de ma part, sire.
Allez raconter ça à d'autres, pas à moi. Vous l'aviez calculé par la psychohistoire. Sire, ne protestez pas.
Que faites-vous pour régler le problème, Joranum?
Vous devez bien faire quelque chose, si vous êtes dans le camp de l'Empire.
Sire, commença Seldon prudent, car il ne savait pas trop ce que l'Empereur connaissait de la question. J'ai envoyé mon fils le rencontrer dans le secteur de Dal.
Pourquoi?
Mon fils est dalite et malin. Il pourrait découvrir quelque chose d'utile pour nous.
Pourrait?
Pourrait seulement, sire.
Vous me tiendrez au courant?
Oui, sire.
Seldon, ne venez plus me raconter que la psychohistoire n'est qu'un jeu, qu'elle n'existe pas. Épargnez-moi ces sornettes. Je compte sur vous pour agir contre ce Joranum. Comment, je ne saurais le dire. Mais vous trouverez un moyen. Je refuse qu'il en soit autrement. Vous pouvez disposer.
Seldon s'en revint à l'université de Strilling, l'esprit bien plus sombre qu'à l'aller. À l'entendre, Cléon semblait peu enclin à accepter l'échec. Tout reposait sur Reich désormais.